Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mais là, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, là, dans ses yeux, on voit qu'il est vicieux, qu'il est... Je sais pas comment dire. Personne lui a fait un lavage de cerveau. Personne ne lui a dit de faire ci, de faire ça, d'aller là-bas, parce que je vais vous dire un truc. Mon frère, tu ne peux pas le convaincre. C'est plutôt lui qui va te convaincre, mais pas toi. C'est impossible. Donc lui, personne ne lui a fait de lavage de cerveau.
Dans l'épisode précédent, Asma est soulagée d'avoir trouvé un peu de liberté avec le départ de son frère en Irak.
Je suis de Paris 19e. Tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer.
Boubekar El-Hakim a rejoint Al-Qaïda pour combattre l'armée américaine qui a envahi le pays. La branche irakienne de l'organisation terroriste est l'ancêtre de l'État islamique. Ses canaux de propagande ne sont pas encore très étendus. Les messageries préférées des djihadistes, Facebook ou Telegram, n'existent pas ou à peine.
Tous mes potes dans 19e, je vous dis, venez faire le djihad. Je suis en Irak, on fait le djihad. Tous mes frères qui sont là-bas, venez pour défendre l'islam.
Grâce à ses appels au djihad, à la télé ou à la radio qui impressionnent, comme sur RTL en 2003, et parce qu'Al-Hakim a ouvert la voie à la filière, une douzaine d'autres jeunes vont l'imiter. En quelques mois, en Irak, Boubekar El-Hakim tend des embuscades aux convois américains à l'aide d'explosifs. Trois de ces jeunes Français vont mourir pendant les combats. Je suis Céline Martelet, vous écoutez 75-019 Daesh.
L'appel d'El-Hakim, c'est un appel qui était bien ciblé.
Je suis en Irak, on fait le djihad.
Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel.
N'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont.
Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste. La filière des buts de Chaumont.
J'ai vécu Daesh en France, avant même que ça existe Daesh.
Épisode 2. De retour de Fallujah.
Pendant cette année, Asma va échapper au coup de son frère. Le franco-tunisien est toujours violent, mais ailleurs, loin d'elle, jusqu'à la mi-2005. Quelques mois après les deux batailles de Fallujah, Boubekar El-Hakim fuit l'Irak, passe en Syrie, où il est arrêté. Il est expulsé vers la France le 31 mai 2005. Asma a 14 ans.
On va à l'aéroport. Et ma mère, toute la bouffe qu'elle a pas fait, je peux vous dire que pendant tout le temps où mon frère Boubacar, il était pas chez nous, on n'avait pas mangé cette bouffe. Elle lui a fait de la bouffe dans un sac, je me rappelle de... Vous savez, comme les sacs Picard pour garder le frais. On va à l'aéroport et moi, j'étais assise. J'avais un manteau en jean avec de la fourrure à l'époque. C'était grave, la mode. On arrive à l'aéroport, on attend Boubacar pour qu'il sorte. Et moi, à chaque fois que le temps y passe, je me dis « Ya Rabbi, Inch'Allah, Inch'Allah, que l'avion ne vienne pas. Oh, ya Rabbi, qu'il y a un retard. Ya Rabbi, qu'il se passe quelque chose. Ya Rabbi, qu'il fasse un crash. » Moi, j'étais dans l'extrême. Hein. Qui meurt, quoi. Pour moi, c'est qui meurt. Et on nous annonce que Boubacar, il vient de descendre, mais qu'il a été menotté. Ouais, super. J'étais la seule contente. Ma mère, elle était au bout de sa vie. Hein. Au bout de sa vie. Et là, on apprend qu'il a un dossier de malade.
Le 14 mai 2008, après 3 ans de détention, Boubekar El-Hakim comparé au procès de la filière des buts de Chaumont. Le président du tribunal correctionnel indique dans son jugement que le frère d'Asma a eu un rôle de combattant. El-Hakim est condamné à 7 ans de prison. La peine est légère. Aujourd'hui, devant une cour d'assises, Boubekar El-Hakim écoperait très probablement d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle, au minimum. Mais en 2008, il n'y a pas eu encore les attentats de 2015. En cette année de détention, le futur émir de Daesh ne fait aucune demande de remise de peine. Pour lui, la seule justice légitime est celle de Dieu. Il ne veut rien devoir à l'administration française qu'il considère comme mécréante.
La première fois que je suis partie lui rendre visite au parloir, j'avais un voile normal. Il était gentil, il m'avait pas fait de remarques. Moi, je pensais qu'il est revenu, il a changé. Mais en fait, c'était juste parce que c'était le premier parloir. Et moi, j'étais trop contente. J'ai dit, c'est bon, mon frère, il a changé. Mon frère, il est gentil. Mon frère, il a regretté. Mais en fait, non, c'était juste parce que c'était le premier jour du parloir. Après ce parloir, déjà, moi, je suis pas partie le voir pendant longtemps. Et après, moi, mon travail, mon job, en fait, c'était de lui télécharger des prêches. Des prêches, mais c'était des prêches dans des sites compliqués, quoi. On devait lui sortir toutes ces anachides, là, de jihad et tout. Mais c'est moi qui le faisais.
C'est-à-dire, vous les trouviez où?
Ah, mais c'est lui qui me donnait les adresses. Il me disait, vas-y, tu rentres sur ce site, tu trouves ça, ça, ça. Mais vous savez que c'était des prêches de combien d'heures? De 6 heures, de 7 heures. Genre un prêche. Et il faut savoir que je lui faisais des transferts de 50 prêches.
Et donc, vous les mettiez où, quand vous?
Dans une carte mémoire.
Et comment elle rentrait en prison?
Ah, c'est nous, on la faisait rentrer. C'est ma mère, la pauvre, elle a caché. Et lui, après, il la mettait dans sa barbe. Et il faut savoir qu'il était beaucoup transféré, lui, hein, de prison en prison. Pendant 7 ans, il faisait genre même pas 6 mois dans une prison. Après, il faisait 6 mois. Mais dans chaque prison, il avait un téléphone. Il avait de la bouffe mieux que nous. Alors, les vêtements, ça, on n'en parle pas. Les Asics, les survettes, je sais pas quoi.
Mais qui lui donne tout ça?
Il nous saoulait avec ça. C'était ma mère qui dépensait tout son argent pour lui.
Seulement votre maman, vous pensez?
Tout son argent, non. Il y avait des copains qui aidaient.
Des frères?
Ouais. Mais ses copains, par contre, ils aidaient tout au début. Quand on va rendre parloir à une personne détenue en France, on n'a pas le droit d'emmener de la bouffe. Mon frère, il mangeait son sandwich devant les surveillants. Personne n'a dit quelque chose. Mon frère, il se faisait jamais fouiller. Mon frère, on lui mettait pas ses menottes. Parce qu'ils avaient peur de lui.
Les surveillants de la prison avaient peur de lui.
Ah oui. Mon frère, il avait personne dans sa cellule. Même si c'est une cellule pour trois. Il était seul. Mon frère, quand il mettait ses anachides en prison, avec le volume, hein. C'était pas en cachette, hein.
Et donc il a radicalisé d'autres personnes.
Oui. Mon frère, il a jamais été influencé. Il a influencé beaucoup, 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 beaucoup.
Sous les yeux de l'administration pénitentiaire, Boubaker El Hakim radicalise encore, comme il l'a fait plus jeune dans le 19e arrondissement. À plusieurs reprises, le numéro d'écrou 6828 est déplacé d'une prison à l'autre pour freiner ce prosélytisme. En 2008, en plein milieu de la cour de promenade de la prison, il organise une prière collective, une vidéo publiée par Mediapart. Quelques années plus tard, dans une interview pour un magazine de propagande de Daesh, le franco-tunisien s'en vante.
Nous devions faire face à des humiliations et à l'inconfort de ces mécréants.
Et il précise.
Mais en même temps, c'était une formidable opportunité d'expliquer notre courant et sa voix à la jeunesse emprisonnée.
Tous les jours, il nous parlait par téléphone. Hein. Tous les jours. Il m'appelle de la prison. Et moi, il faut savoir qu'à ce moment, il ne me parlait pas beaucoup. Il ne me parlait même presque pas. Et il me dit, écoute, il faut que tu te maries avec un tel. Et il me dit, oui, voilà, c'est mon pote, il est très gentil, tu sais, tu vas voir, ça va bien se passer. Il voulait me faire comprendre, genre, c'est pas un mec comme moi qui est dur, t'inquiète. Mais en même temps, c'est, tu vas te marier, genre, c'est pas une question, c'est pas un choix. J'avais 16 ans à peu près. Et aussi, il faut savoir qu'il y avait ma mère à côté, qui me rassure énormément, qui me dit, oui, t'inquiète pas, je le connais, tu sais, c'est pas comme les autres, en plus, tu sais, tu vas te marier, ça serait mieux, comme ça, t'auras ta vie, ton appart. Mais moi, j'en rêvais, quoi. Oh, moi, c'était libéré, délivré, quoi. Ça, c'est bon, c'était la belle vie pour moi. Et oui, j'ai accepté. Le jour de mon mariage islamique, il me ramène un cadeau. Ah, moi, j'étais contente, hein, écoutez. C'est quand même la première fois que j'ai un cadeau d'un homme. Enfin, mon cadeau, c'était le voile intégral. J'ouvre la boîte, je vois le voile intégral. Il me dit, écoute, je lui dis, mais non. Je lui dis, mais non, moi, je peux pas et tout. Il me dit, mais non, tu sais, t'es trop belle, il faut pas que les hommes te voient et tout. Après, moi, je dis, ah ouais, c'est vrai, je suis très belle. Bon, ok. Donc, par la suite, j'ai porté encore le voile intégral. Et je vais au parloir voir mon frère Boubaker. Mais qu'est-ce qu'il était fier de moi? Trop content. Genre, c'est la première fois que mon frère, il me parle, qu'il discute avec moi, qu'il prend son temps, qu'il... C'était dingue pour moi. Avant, c'était pas comme ça. Dans le salon de chez ma mère, dans le 19e, donc il y avait l'imam, et moi j'étais dans la cuisine. Après, j'ai entendu que l'imam, il a dit, il faut que la mariée se rapproche. Il faut que j'entende de sa bouche qu'elle dise oui. Et en même temps, attention, il y avait mon frère Boubacar aussi au téléphone.
Depuis la prison.
Voilà. Et ils ont fait genre, ça y est, alhamdoulilah, Allahu Akbar et tout, genre ça y est, vous êtes mariés. Le soir même, je me rappelle, il y avait la maman, sa maman. Elle était très, très, très gentille. Très, très gentille. Elle discutait avec moi et elle me dit un truc. Elle me dit, écoute, ma fille, tu sais, mon fils, il a beaucoup souffert quand il était en Irak. Tu sais, des fois, la nuit, il se réveille et il va frapper. Mais moi, je me disais, ouais, mais... Enfin, quand il dort, il n'est pas avec moi, quoi. Ça me regarde pas, ça, déjà. Elle me disait, il aime les cheveux longs. Et moi, j'avais les cheveux hyper longs. Mais je les ai coupés. Après, je lui dis, ok. Et elle me dit, des fois, tu vas trouver qu'il est agressif. Mais c'est normal, tu sais, ça va changer. Il a besoin d'une femme et tout. Elle m'a dit aussi que ça fait des années, il a pas côtoyé des femmes. Je vais pas vous mentir, à cette époque, déjà, c'était un passe-temps pour moi, plutôt parce que je m'ennuyais énormément. Et aussi, c'est que j'étais contente, entre guillemets, de rendre fier mon grand frère. C'est bon, je suis la petite bichette de la famille. Et un jour, dans le périphérique, donc il faut savoir que mon voile intégral, on voyait même pas mes yeux. Et c'était la canicule. C'est grave, 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 grave chaud, en fait. Je relève une seule couche de mon voile intégral, donc on voyait mes yeux. Et là, il y avait un monsieur qui conduisait sa voiture, donc elle était de mon côté. Et donc moi, j'avais enlevé la première couche, je lui dis « ouais, j'ai trop chaud », il me dit « ouais, vas-y, c'est pas grave ». Donc le monsieur, je pense qu'il a mis le clignotant pour se mettre devant nous, donc automatiquement, le monsieur, il s'est retourné vers moi, et le monsieur, il m'a regardé. Sauf que là, Peter Sheriff, il descend de la voiture sur le périphérique. Vous savez, je me rappelle plus des détails exacts, mais je me rappelle qu'il a arrêté la voiture qui était devant nous. Il est descendu et il a frappé le mec. Pourquoi ? Parce qu'il a vu mes yeux. Il a démonté le mec. Il l'a dégommé. Je pense que c'est à ce moment-là vraiment précis. Je me suis dit, reste tranquille, toi. Fais gaffe.
C'est à ce moment-là qu'Asma, pour la première fois, dit ce nom, Peter Sheriff. Pourtant, je l'enregistre déjà depuis plusieurs heures, mais jamais elle n'a réussi à le prononcer avant.
Dans l'enquête sur les attentats de janvier 2015, il est le morceau manquant du puzzle. Le cerveau, peut-être le commanditaire, celui qui aurait recruté les frères Kouachi.
Peter Sheriff, c'est l'un des seuls de la bande des buts de Chaumont encore en vie. Depuis 2015, il est placé par les États-Unis sur la liste noire des terroristes les plus dangereux. Aujourd'hui, il est incarcéré et poursuivi notamment pour son rôle dans la préparation de l'attaque contre Charlie Hebdo avec les frères Kouachi. C'est à la base un disciple de Boubacar El-Hakim, un autre vétéran du djihad venu du 19e arrondissement de Paris comme lui. En 2003, il a rejoint son ami en Irak pour combattre comme lui contre les Américains. Un an plus tard, il participe à la bataille de Fallujah avant d'être capturé et transféré à Abu Ghraib. Abu Ghraib, près de Bagdad, la prison du scandale. Celle des tortures physiques et psychologiques pratiquées par les soldats américains entre 2003 et 2004. Lors de son procès, un prévenu des buts de Chaumont avouera que ce sont ses photos de torture qui ont confirmé son envie de partir combattre en Irak. Après 4 années de prison, Peter Sheriff, lui, réussit à s'enfuir du pays. Il est rattrapé en Syrie et renvoyé en France. Au moment du procès des buts de Chaumont, la justice enquête encore sur son cas. Au bout de 18 mois, Peter Sheriff est même remis en liberté en attendant son jugement. Ça paraît dingue encore une fois. Mais oui, après avoir combattu contre les Américains à Fallujah, il comparaît libre en 2011. Et c'est parce qu'il est libre qu'il va devenir le monstre d'Asma.
Après, il arrive ce jour. Je ne me rappelle plus c'était quand d'ailleurs. C'est qu'il y avait tout le monde à la mosquée et moi et lui, on était restés seuls. Et là, il commence. Caresse. Ça commence. Je vais être honnête avec vous, sur le moment, j'ai pas dit non, quoi. Mais il y avait le moment où, non, là, c'était pas des caresses, c'était autre chose. Et moi, mon échappatoire, c'est non. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. On doit aller à la mosquée parce que je dois rejoindre ma mère. Et ça commence. Donc ça, c'était la première fois. Après, il recommence. Il a jamais réussi. Vous savez, il est resté 3 semaines. 3 semaines avant d'avoir le premier viol. Vous savez, sur le moment, je voyais pas ça comme un viol. Je me disais, ben voilà, en fait, il fallait que ça se passe. Et c'est comme ça, quoi, c'est tout. Hein. T'as rien à faire, quoi, t'es obligée, quoi.
Et vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais presque, je rentrais sur mes 17 ans, du coup. Aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais putain, quoi, pourquoi t'as pas pris tes bagages et tu t'es barrée à ce moment-là? Pourquoi t'as laissé jusqu'à ce que cet homme, il te touche et il fasse ça pour que toi, tu t'en rends compte? Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Quand je prenais le métro, putain, mais je me disais, mais si seulement les gens, ils savent dans quoi je vis, moi. Vous êtes dans le métro, des fois, vous avez envie de crier. Vous avez envie de regarder tout le monde, leur dire « Sauvez-moi !» C'est incroyable, mais comment on peut vivre dans un monde? On peut ressentir des choses dans son cœur. Et quand on sort, on a envie juste de crier. Juste dans le métro, de regarder. Des fois, je regardais des femmes un peu vieilles et j'avais envie de leur dire « Mais s'il vous plaît, sauvez-moi, quoi. J'ai personne. »
Cette solitude, je me rappelle que l'une des sœurs de Mohamed Merah, le terroriste de Toulouse, l'a aussi racontée à la barre en 2017. Et souvent, quand j'ai rencontré des femmes aspirées ou piégées dans cette sphère djihadiste, elles me l'ont décrite de la même façon. L'impression que personne ne se rend compte de la dangerosité de leur entourage. Aujourd'hui, Asma envisage de porter plainte pour viol contre Peter Chérif. Mais elle reste terrorisée à l'idée de lui faire face à nouveau. Elle a peur aussi qu'on l'accuse de mentir. En attendant, en janvier 2023, Peter Chérif n'est pas poursuivi pour ses faits. Pour échapper à cette violence en 2009, Asma va réussir finalement à fuguer quelques jours. Mais son frère Boubekeur Al-Hakim la menace depuis sa prison. Elle rentre et s'installe chez la mère de Peter Chérif, toujours dans le 19e arrondissement. Elle a 17 ans.
Je rentre dans sa chambre et tout, et sa mère, elle me dit « Écoute, ma fille, t'inquiète pas, ça va aller. Reste un petit peu ici, tu vas voir, ça va mieux aller. En fait, tu sais pourquoi ça va pas entre vous? Parce que il est chez ta mère et tout, c'est compliqué, tu vois. » Ben, je fais « Ok. » Sauf que là, il faisait de la livraison de pizza. Et je vous jure, hein, juste en face de sa chambre, il y avait la porte de la salle de bain. C'était une salle de bain toilette. Toute la journée, il fermait la porte à clé. Et j'avais, je me rappelle, des miel pops et du lait. Lui, il travaillait en livraison. Et moi, je restais à la maison. À chaque fois qu'il sortait de la maison, il ferme la porte à clé de sa chambre. Donc même pour aller, moi, à faire pipi, je pouvais pas. Il couchait avec moi et je pleurais. J'étais en dessous de lui et je pleurais. Moi, je pensais que quand j'allais pleurer, il allait pas le faire. Hein. Il s'en battait les reins. Il s'en foutait limite. Ça, il kiffait, en fait. Et depuis ce soir-là, il m'a fait comme si ressentir que c'est moi, la traître, qui a voulu fuguer et tout, et ben maintenant tu vas payer, tu vas voir. Et ben c'était tous les soirs comme ça à partir de ce moment. Des rapports, je pleure, et ben ils s'en battaient les steaks. Quand vous êtes enfermé, c'est dingue, hein, mais vous reconnaissez les pas, vous reconnaissez le bruit de la porte, vous reconnaissez le bruit des clés. Et un jour, sa mère, elle rentre. Je me rappelle que c'était au mois de décembre. Et je l'entends, elle dit « Putain, j'ai oublié le pain ». Et quand elle sort, je n'entends pas la porte de la maison se fermer à clé. Je ne sais pas comment j'ouvre la porte de sa chambre. Je tac, 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 tac. Que en une fraction de seconde, je prends ma valise. Je ne sais pas comment j'ai fait, en fait. Je ne me rappelle plus mes chaussures, elles étaient où. Je ne sais plus si je suis sortie avec un manteau. Je ne me rappelle plus. Et je descends dans l'immeuble, tout en bas, la cave. Et c'était des HLM, mais à l'ancienne et tout. Et je me cache. Mais je tremble. J'ai flippé ma race. Mais je suis pas encore sortie, j'étais dans l'immeuble. J'avais peur de sortir de l'immeuble et de le voir, en fait. J'avais grave, grave peur. Si j'ai l'instinct de survie, c'était ma vie ou ma mort. Et je me barre, je monte dans le bus, je tremble. Et je regarde. Mais vous savez que je l'ai laissé, son voile intégral, hein. Je lui ai laissé dans la chambre, je ne l'ai pas pris avec moi, je ne suis pas sortie avec. J'aurais pu faire la meuf, vas-y, sors avec ton voile intégral, on ne va pas te reconnaître. Eh ben non, je te le laisse. Et je me suis barrée.
Pour écouter les deux derniers épisodes de notre série 75-019 Daesh, rendez-vous le mercredi 25 janvier. D'ici là, vous pouvez activer les notifications sur votre application de podcast préférée pour être alerté dès leur sortie. 75-019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produit par Paradiso Media, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com, code PROGRAM.